Dans l'Évangile, on passe beaucoup de temps dehors, alors que Dieu nous attend à l'intérieur. Souvenez-vous des paraboles que nous entendions en septembre et en octobre, paraboles, toute une série sur la vigne, en particulier la parabole des ouvriers de la dernière heure. C'était une ambiance typiquement méditerranéenne qu'il est bon d'évoquer quand on est au mois de novembre, aux aires de soleil et de chaleur. Mais d'ailleurs, c'était le poids du jour et la chaleur qui rendaient le travail pénible. Mais dans cette scène, les hommes traînaient dehors. Ils traînaient sur la place, sans rien faire. Ils attendaient qu'on vienne les chercher. Et puis il y en avait certains qui restaient là toute la journée sans rien faire. À la fin, à l'heure des comptes, ceux qui avaient beaucoup travaillé depuis le matin, ceux-là, on les entendait récriminer. Alors le verbe, on peut le traduire par murmurer, mais c'est quand même bien plus désagréable que murmurer. En grec, c'est gogizo, ça sonne comme une onomatomie, ça grogne, ça râle, vraiment sec. En anglais, c'est grumble. Grommelle, non, c'est vraiment un mécontentement profond. C'est une mauvaise grogne, c'est une critique ouverte. Et la suite, c'était dans la continuité, les paraboles suivantes. Celle des vignerons homicides, celle des invités à la noce qui basculaient dans la violence, dans le meurtre, par un glissement inéluctable. Quand l'homme rejette Dieu, il sombre dans la violence. Ce n'est pas la religion qui mène à la violence. Ça, c'est une parole qui vient du diable. C'est l'orgueil. C'est la volonté de puissance, le besoin d'écraser, d'exister au détriment des autres, le besoin de se faire remarquer, le manque d'un minimum de discrétion. C'est de discrétion dont je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que c'est la marque de l'Esprit-Saint. C'est même sans doute la raison pour laquelle l'Esprit-Saint est ce grand inconnu, pour lequel nous n'invoquons pas suffisamment l'esprit, parce que l'esprit de discrétion, c'est un des noms de l'Esprit-Saint. Souvenez-vous du passage qu'on entend chaque année au mercredi décembre, ce passage du Sermon sur la montagne qui ressemble beaucoup à celui que nous avons entendu, où Jésus exhorte ses disciples à ne pas être, je cite, « comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. » Dans ce passage, il ne dit pas les pharisiens, comme on vient de l'entendre, il dit les hypocrites. Et les deux ont été assimilés au fur et à mesure du siècle, ils sont devenus synonymes, sauf que les pharisiens ne manquaient pas seulement de sincérité, ni de courage, peu importe comment on l'appelle. Il manquait d'humilité, un minimum d'humilité et de discrétion. L'humilité de Jésus, qui s'abaisse sera élevé. Vous savez ce que dit l'abbé Huvelin à Charles de Foucault ? Jésus, il a tellement pris la dernière place que personne ne pourra lui ravir. Et Dieu l'a exalté, il l'a mis au-dessus de nom qui est au-dessus de tout nom. L'humilité de Jésus qui fait qu'on peut parler de l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu, c'est le titre d'un livre du Père Varion. Les plus anciens d'entre vous connaissent, on peut toujours le lire, c'est vraiment vraiment un bon auteur spirituel. Il a publié cela en 1974, il a reçu à l'époque le Grand Prix de littérature catholique. Père Varion avait à ce moment-là, c'est un jésuite, prédicateur célèbre du moment, il avait 70 ans, la plupart de ses ouvrages sont posthumes, en particulier l'ouvrage de référence, « Joie de croire, joie de vivre ». Ça, il faut avoir ça dans sa bibliothèque, on peut le relire régulièrement. L'humilité de Dieu. C'est une expression qui avait dérangé à l'époque parce que ça semblait comme une atteinte à la transcendance de Dieu. C'est difficile de tenir à la fois la gloire de Dieu et sa proximité. Et puis l'idée a fait son chemin, il y a un chant qui est très en vogue, on prend assez souvent ici, « Regardez l'humilité de Dieu ». Ça date de 2014, 40 ans entre les deux. L'humilité de Dieu, la souffrance de Dieu et même la mort de Dieu. Tout ce que Jésus a vécu en son humanité peut être attribué à Dieu. Nous appelons ça la communication des idiomes. Mais il en va de même pour l'Esprit-Saint. Si j'avais à écrire un livre sur l'Esprit-Saint, Dieu m'en garde, je l'appellerai, je mettrai comme titre probablement, la discrétion de Dieu. Et je chercherai surtout à rappeler le double sens du mot discrétion, et surtout son sens originel. À l'origine, discrétion, ça veut dire sagesse, le discernement. On en a gardé des traces dans l'âge de discrétion. Aujourd'hui, on dit l'âge de raison. Mais l'âge de discrétion, c'est quoi? C'est la capacité de discernement du bien et du mal. La condition pour faire sa première communion. Et puis, il y a d'autres expressions comme laisser à votre discrétion. C'est plus qu'à votre appréciation. C'est à votre bon jugement, à votre discernement. Faire preuve de discrétion, ça ne veut pas dire ne pas exister. Ça veut dire trouver la bonne mesure. Faire preuve de respect, de tact, de délicatesse, de réserve. Vous voyez l'expression « une personne réservée ». La définition « qui ne se livre pas inconsidérément ». Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, voilà un bon exemple. « Qui écoute avant de parler ». J'ai regardé sur Internet, dans une rubrique, il y avait toute une liste des caractéristiques d'une personne réservée. Il y en a 12 ou 15, toute une liste. Calme, équilibré, émotionnellement stable, autonome, à l'écoute, compatissante, facile à vivre. Je me suis dit, waouh, c'est l'ami rêvé. C'est l'ami idéal. Il faut avoir dans ses amis des personnes réservées. Puis pendant que j'étais, j'ai regardé, j'ai vu qu'il existait aussi un livre qui a déjà ce titre, La discrétion de Dieu. Alors je l'ai commandé, je l'ai lu, j'ai été un peu déçu. Parce que l'auteur interprète la discrétion de Dieu comme le silence de Dieu. Justement, mais Dieu n'est pas silencieux, ou du moins qu'en apparence. Voyez la discrétion de l'Esprit-Saint, aussi importante à tenir et à comprendre que l'humilité de Jésus. Ce sont deux faces, deux signes, deux preuves de la grandeur, de la puissance, de la vérité de l'amour de Dieu. Pour pouvoir accueillir cet amour, toute la délicatesse de Dieu pour nous, et pour pouvoir suivre cet exemple, les deux sont nécessaires. L'humilité de Jésus, la discrétion de l'Esprit.